Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission avec le journal, suivi les infos de l'Indonésie. Et ensuite, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point de la semaine. Pour le programme suivant, comme d'habitude, nous allons présenter le magazine culturel qui sera suivi par l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter la rubrique courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La France s'intéresse aux produits de l'industrie alimentaire indonésienne. L'Indonésie et la France se sont engagées à augmenter l'effort pour la paix mondiale. Le président polonais visitera l'Indonésie. Le président Joko Widodo veut que Jonan et Archandra mènent des réformes à grande échelle. Le ministre de la Communication et de la Technologie de l'Information cible toute l'Indonésie connectée à broadband en 2017. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La France s'intéressait aux produits de fruits conservés, le produit bio, le café de spécialité, les poissons et les fruits de mer, les épices et agro-industries d'Indonésie, a déclaré le ministre conseiller de l'économie de l'ambassade d'Indonésie à Paris, M. Fajar Wirawan Harijo, à Londres le samedi. La réunion du forum d'affaires organisée par l'ambassade d'Indonésie à Paris, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France et le conseil de gestion du fonds de la plantation au BPDP de palmiers à huile. Cette réunion a été ouverte par l'ambassadeur d'Indonésie en France, M. Hotmangaraja M.P. Panjaitan, participé par plus de 35 entreprises indonésiennes et la France spécialisée dans les aliments et agro-industries. Le forum d'affaires a eu lieu dans le cadre de la campagne d'huile de palme durable en Indonésie et aussi pour promouvoir le café indonésien, y compris vise à promouvoir le commerce et l'investissement de l'Indonésie, notamment sur la nourriture et l'industrie agro. Les participants et les hommes d'affaires indonésiens qui ont assisté au forum d'affaires vont présenter et promouvoir leurs produits alimentaires au Salon international de l'alimentation à Paris du 16 au 20 octobre. Il est important pour l'Indonésie et la France de renforcer la coopération commerciale, notamment après le lancement du partenariat stratégique entre l'Indonésie et la France il y a 5 ans. Le gouvernement indonésien et le gouvernement français ont déterminé à coopérer pour améliorer les efforts pour la paix mondiale, comme indiqué dans un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères le samedi. L'engagement a été transmis par le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, et le ministre français des Affaires européennes, Harlem Désir, lors d'une rencontre bilatérale en marge de la 21e réunion ministérielle, l'Union européenne-ASEAN, qui a eu lieu à Bangkok, la Thaïlande. Comme l'un des engagements de l'Indonésie dans le domaine des missions de maintien de la paix, dans le monde, l'Indonésie participera à la réunion lancée par le gouvernement français. Cette réunion se tiendra du 26 au 27 octobre 2016 à Paris. La France y discutera des missions de paix et sa relation avec le développement des communications de langue française pour le personnel des Nations Unies et un contingent de missions de paix. L'Indonésie et la France ont disposé le mécanisme bilatéral sous la forme du forum consultatif bilatéral au niveau ministériel, entre autres le dialogue sur la défense indonésien-français, le groupe de travail conjoint pour l'enseignement supérieur, le tourisme et l'énergie. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères pour le développement de la coopération de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, la diplomatie économique et les droits de l'homme, Mme Joanna Wronicka, a rencontré la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, et a déclaré que le président polonais visiterait l'Indonésie. La réunion bilatérale a été réalisée en mars de la 21e réunion ministérielle l'Union européenne-ASEAN à Bangkok, la Thaïlande, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères le samedi. Selon la ministre Wronicka, les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Pologne ont très bien établi, avec la tendance de commerce étant également positive. Pour la Pologne, l'Indonésie est l'un des partenaires stratégiques en Asie. Pour renforcer la coopération bilatérale avec l'Indonésie, le président de la Pologne fera une visite en Indonésie en 2017. On espère que cette visite est accompagnée d'une délégation d'affaires de la Pologne. Au cours de la réunion, le gouvernement des deux pays ont convenu de l'importance d'améliorer la connectivité, y compris la coopération entre la compagnie aérienne indonésienne et la compagnie aérienne polonaise, telle que Garuda et Lot Polis Airline, et la coopération entre la compagnie aérienne Perdura, un itinéraire de vol direct de Varsovie à Jakarta ou Denpasar. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président indonésien Joko Widodo exhorte le nouveau ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, M. Ignatius Jonan, et le vice-ministre Archandra Tahar pour mener des réformes à grande échelle dans le secteur des ressources énergétiques et minérales. Cela a été confirmé par le président Joko Widodo après avoir inauguré les deux au Palais d'État Jakarta vendredi. Il a également affirmé que la réforme dans le secteur de l'énergie est étroitement liée à l'amélioration de la gestion. Il a aussi demandé la nomination de Jonan et Archandra de ne pas associer à des questions politiques ou des problèmes personnels. Le président Joko Widodo a affirmé que la figure compétence est appropriée et nécessitée pour les réformes à grande échelle dans le secteur de l'énergie. Bien que ce ne soit pas une tâche facile, il croit que la collaboration entre les deux personnes est capable de résoudre le problème dans le secteur de l'énergie. Le ministre de la Communication et de la Technologie et de l'Information, M. Rudiantara, cible que toute l'Indonésie sera connectée à grande vitesse du réseau de communication de données broadband en 2017. C'est ce qu'a affirmé M. Rudiantara lors de la visite au nord de Kayong, Kalimantan Ouest, vendredi. Selon lui, si Kalimantan veut se connecter bien au réseau d'Internet, il cible l'installation de bases Transceiver Station ou BTS dans 75 emplacements à partir de Kalimantan Occidental à l'est de Kalimantan, de sorte que toutes les régions de Kalimantan peuvent se connecter via BTS. Pour Kalimantan Occidental, 30 emplacements de BTS seront construits dans les villages qui sont en dehors de adjacents à Kalimantan Ouest. En construisant cet anneau de Palapa, toute Kalimantan Occidental et l'Indonésie peuvent se connecter à l'Internet à la fin de 2017. Ministre Rudiantara a dit qu'avant de maximiser le programme d'amélioration du réseau, il ira aux régions les plus éloignées à l'ouest de Kalimantan. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons présenter le programme de la Nouvelle de l'Indonésie qui présente une variété d'informations intéressantes à travers le pays en une semaine. La première nouvelle est venue de Bangka, en province de Bangka Belitung. Léa, qui participe à Wonderful Sail de Indonesia Rally 2016, commence à arriver au zoo Sungai Liat à Bangka, en province de Bangka Belitung. Le secrétaire de la province de Bangka Belitung, Yan Megawandi à Pangkal Pinang, a déclaré mercredi que l'information sur leurs arrivées a été rapportée par le ministère de la Culture et du Tourisme des îles de Bangka Belitung. La mise en œuvre de Wonderful Sail de Indonésie Rally 2016 est centralisée dans la résidence de Bangka, participée par 30 unités de voiliers, 110 personnes de 12 pays. Le gouvernement provincial de Bangka est en train de préparer des spectacles culturels, des expositions culinaires et de divers produits d'artisanat typiques de la région pour rendre succès cet événement international. Les activités à Wonderful Sail de Indonesia Rally 2016 sont entre autres la visite aux sites touristiques, l'attraction de danse traditionnelle, le yoga, le tour de la ville, la boule de peinture, la plongée en apnée et la plongée sous-marine. La nouvelle suivante, elle vient de Pontianak, Kalimantan Ouest. Le potentiel des forêts de mangrove de la région de Kubu Raya porte le titre de meilleur du monde sur la version de la magazine Linker City Link, édition mars 2016 et Expresser Magazine. La région de Kubu Raya, M. Rusman Ali, a déclaré récemment à Sungai Raya, Kalimantan Ouest, que si l'on l'a exploré, les touristes verront et profiteront de la beauté naturelle de mangrove Kubu Raya. Là-bas, il y a des dizaines de milliers d'habitants marins qui vivent dans les racines des mangroves. La forêt a aussi un très beau panorama au coucher du soleil. À cette fin, Ali demande à tous les éléments de participer au maintien et à la préservation de la beauté naturelle des forêts de mangroves de Kebun Raya. Comme une richesse de l'écotourisme qui est une attraction merveilleuse et le meilleur dans le monde. Chers amis, c'était le programme de la Nouvelle de l'Indonésie, de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 16 octobre 1905, la création de l'Organisation du commerce islamique fondée par Saman Houdi à Surakarta. L'Organisation du commerce de l'islam était une association de marchands musulmans. Elle a été fondée par Haji Saman Houdi à Surakarta le 16 octobre 1905 avec l'objectif initial d'améliorer le commerçant musulman indigène, surtout le commerçant batik, afin de rivaliser avec des grossistes chinois. À cette époque, les entreprises de marchands chinois étaient plus développées et avaient le droit et le statut plus élevé par rapport à l'autre résident de l'Inde néerlandaise. Cette condition a fait le changement social en raison de l'émergence de la conscience chez les indigènes, communément appelés Inlanders. Sarekat Dagang Islam est une organisation économique fondée sur la religion islamique et l'économie publique. Sous la direction de Haji Saman Houdi, cette association se développe rapidement pour devenir une association influente. Le 16 octobre 1923, l'établissement de Walt Disney. The Walt Disney Company, mieux connu sous le nom de Disney, est la plus grande entreprise de conglomérat dans le domaine de divertissement et des médias. Cette entreprise a été créée le 16 octobre 1923 par Walt Disney et Roy Oliver Disney avec le nom Disney Brothers Cartoon Studio. Mickey Mouse est devenu le symbole de Walt Disney. La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque année le 16 octobre. Cette date a été choisie par rapport à la création de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies le 16 octobre 1945. La Journée mondiale de l'alimentation est définie par les pays membres de l'OAA à la 20e conférence générale en novembre 1979. La délégation hongroise, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Dr. Pál Rumáni, joue un rôle important dans la conférence et a proposé l'idée de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Cette célébration vise à améliorer la préoccupation au problème de la pauvreté et la faim. Depuis 1981, la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation adopte des thèmes différents pour chaque année dans le but de souligner l'importance des questions alimentaires qui nécessitent une attention particulière. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie. Soyez la première, soyez différente, soyez la meilleure.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Chers amis, bonsoir. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme La mise au point de la semaine intitulé « Il y aura encore des dachas ». Des principaux systèmes des armes ou alutsista, bien que le budget ait baissé. Bien qu'il y ait des économies de budget de l'État, le gouvernement est engagé à continuer à augmenter son budget de défense. Au plus tard en 2019, le budget de défense est prévu d'atteindre 1,5% du revenu national brut. Le vice-président de la Commission 1 du Parlement, M. Hanafi Rais, a déclaré que l'engagement a été transmis par le ministre des Finances, Mme Sri Mulyani, lors de l'audience sur le budget de défense dans le projet du budget national 2017, jeudi 13 octobre. Mais dans le projet de budget national 2017, le projet de budget proposé par le gouvernement pour le secteur défense est de 104,4 trillions rupiah. Ce nombre est en baisse par rapport au budget de l'année dernière, qui était au montant de 108,7 trillions rupiah. Selon M. Hanafi, avec le budget de 104,4 trillions rupiah, la capacité de l'armée nationale indonésienne pour faire face aux menaces de l'étranger, comme il arrive dans la mer de Chine méridionale et dans les eaux au sud des Philippines, ne sera pas optimale. Le secteur de la défense ne devrait pas être considéré pour être compromis en raison des difficultés économiques, parce qu'elle est associée à la souveraineté du pays. Il se réfère à l'allocation du budget de défense à ces dernières années. Selon Hanafi, le budget de défense était une fois tombé au montant de 120 trillions rupiah. Cette allocation budgétaire peut devenir la référence pour la détermination du budget de défense en 2017. Si le souhait de la Commission 1 du Parlement est approuvé, le budget de la défense pourrait continuer à augmenter progressivement. Ainsi, au plus tard en 2019, le budget de défense pourrait atteindre à 1,5% du produit intérieur brut ou environ 250 trillions rupiah. Ceci est comme indiqué dans le plan national de développement à moyen terme de 2014 jusqu'à 2019, comme déclaré M. Hanafi. Cependant, même si le budget de défense est réduit par rapport à l'année précédente, le ministre de la Défense, M. Riamizar Triakudu, qui était aussi présent lors de cette audience, il rassure qu'il y aura encore des JASA, les principaux systèmes des armes ou alutsista. L'ASA est focalisée pour le renforcement de la défense maritime. Ceci est en conformité avec l'objectif du président Joko Widodo, faisant de l'Indonésie à l'axe maritime du monde. Voilà la mise au point de la semaine. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici les événements de la semaine. Les événements du lundi. L'Indonésie a fixé des objectifs à être les 10 plus grands contributeurs de casque bleu. L'Indonésie est le plus grand contributeur à la force intérimaire des Nations Unies au Liban, ou la FINUL. L'Indonésie est également le 11e plus grand contributeur aux missions pacifiques des 123 pays qui contribuent les personnels et le casque bleu. Depuis 2014 jusqu'à présent, l'Indonésie a envoyé 2867 casques bleus. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, en donnant une séance d'information dans la formation de pré-affectation du groupe de travail de bataillon mécanisme de TNI Konga, FINUL au centre de mission de maintien de la paix de TNI à Sentul le 10 octobre 2016. Les événements du mardi. L'Uruguay soutient l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue de la République orientale de l'Uruguay, Rodolfo Ninovoa, à Jakarta le mardi, le 11 octobre 2016. Dans cette réunion, ils ont également discuté de la coopération dans le domaine des questions internationales. L'Indonésie et l'Uruguay ont convenu de se soutenir mutuellement au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Uruguay soutiendra l'Indonésie comme le membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019 jusqu'à 2020. Les événements du mercredi, la réunion Indonésie-Roumanie se concentre sur la coopération de l'économie et de l'infrastructure. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a rencontré son homologue de la Roumanie, Lazar Comănescu, mercredi 12 octobre, au ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La visite du ministre roumain des Affaires étrangères était sa première visite officielle à l'Indonésie depuis les 66 ans de la relation diplomatique entre les deux pays. Le ministre Lazar Comănescu et accompagné d'une délégation d'affaires pour assister à l'exposition commerciale de l'Indonésie, TEI, à Jakarta. La délégation est composée des hommes d'affaires dans le domaine de l'énergie, la construction, les biens de consommation et l'agriculture. Au même jour, le ministre de l'Éducation et de la Culture a signé un protocole d'accord avec l'Université de technologie Auckland. Le ministère de l'Éducation et de la Culture, à travers la mise en œuvre du Forum mondial de la culture, ou WCF, en 2016, le mercredi à Nusa Dua, Bali, a signé un protocole d'accord avec l'Université de technologie Auckland sur l'envoi des activités culturelles en Nouvelle-Zélande. La signature a été menée par le chef du Bureau de la planification et de la coopération internationale du ministère de l'Éducation et de la Culture, Madame Suharti, avec le vice-recteur de l'Université de technologie Auckland, professeur Nigel Hamilton, assisté par des représentants de l'ambassade de Nouvelle-Zélande en Indonésie, ainsi que le directeur général de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, Hilmar Farid. Les événements du jeudi. WCF 2016 a produit une déclaration de Bali. Après avoir effectué une série d'activités et de réunions, le Forum culturel mondial en 2016 a finalement produit la déclaration de Bali, qui était l'engagement des participants du Forum de renforcer les efforts de l'intégration de la culture en tant que moteur de développement durable. Le président du comité du Forum culturel mondial, M. Ananto Kusuma Seta, rappelait la promesse de Bali comme résultat de WCF en 2013, qui met en évidence la culture comme dimension de développement durable. Il a également mentionné que le Forum culturel mondial sera une fondation permanente pour promouvoir le rôle de la culture dans le développement durable. La déclaration de Bali souligne que les politiques fondées sur la culture produiraient le développement durable, inclusif, équitable et mieux. La déclaration de Bali a également reconnu la contribution importante des ressources culturelles, soit matérielles ou immatérielles, ainsi que de reconnaître l'intégration de la culture dans les aspects du développement durable. Au même jour, la valeur commerciale entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan pourrait être augmentée. La coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Azerbaïdjan a fonctionné pendant centaines d'années. Les relations bilatérales se concentrent actuellement sur la coopération commerciale. L'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en Indonésie, Tamerlan Garayev, a affirmé à la Voix de l'Indonésie, à l'ambassade azerbaïdjane à Jakarta, que la coopération bilatérale continue à fonctionner même si la valeur de commerce a diminué en 2015. L'ambassadeur Tamerlan Garayev a expliqué que la coopération potentielle entre les deux pays pouvait être développée telle que l'exportation et l'importation de pétrole brut, la coopération du tourisme et de l'éducation, et il espère également que la coopération bilatérale pouvait être développée dans l'avenir. La 43e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique aura lieu du 18 au 19 octobre à Ouzbékistan. Lors d'une réunion avec le thème de l'éducation, l'Indonésie invitera les pays de l'OKI à collaborer plus étroitement dans le cadre de l'éducation, à construire la gloire de la science dans le monde islamique et à utiliser l'éducation pour prévenir le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme. Le directeur chargé socioculturel de l'Organisation internationale des pays en développement, Arko Hananto Budiadi, a affirmé que cet événement annuel produirait une série de résolutions sur la politique, l'économie, le terrorisme et les questions liées à la Palestine et la Syrie. Dans une conférence de presse tenue vendredi, il a expliqué que la question palestinienne serait toujours le sujet de discussion dans la réunion ministérielle. Au même jour, l'Indonésie et l'Australie organiseront une réunion pour discuter de la politique et de la sécurité. L'Indonésie et l'Australie organiseront une réunion le 28 octobre 2016 pour discuter de la politique et de la sécurité. La réunion du ministre indonésien des Affaires étrangères et du ministre de la Défense de l'Indonésie et de l'Australie était la 4e réunion. Le directeur pour Asie orientale et le Pacifique du ministère des Affaires étrangères, M. Edi Yusuf, a déclaré que la réunion montrait la relation étroite entre les deux pays. La réunion discutera de la stratégie pour faire face aux questions politiques et de sécurité qui deviennent l'intérêt pour les deux pays pour encourager la paix et la stabilité dans la région. Chers amis, c'était les événements de la semaine de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et auditrices dans le monde entier, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Persona Indonesia ou magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager dans le monde culinaire de l'île de Buton. Donc, restez toujours avec nous sur RRI World Service, la Voix de l'Indonésie. Outre par Encourt, vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers amis, Buton est une île situé à Sulawesi du Sud-Est qui est connu pour la production des asphaltes. Il existe aussi beaucoup de destinations touristiques intéressantes à visiter, surtout les destinations maritimes. Il y a la place de Mirwana, la place de Kamili et la place de Lakeba. Après avoir visité les belles plages de Bouton, allez goûter la cuisine typique de Bouton. La cuisine de Bouton est tout à fait différente de celle en général de l'Indonésie qui utilise le riz comme l'aliment de base. La société de Bouton a l'habitude de consommer du manioc, du maïs et du poisson frais comme le substitut alimentaire pour le riz. La plupart de l'alimentation de Bouton sont produites en toute simplicité, de la sélection des ingrédients jusqu'à la présentation, parce que les ingrédients principaux utilisent les produits qui ont été facilement rencontrés, tels que le manioc. Il existe beaucoup de cuisines spécialisées de Bouton à base de manioc, comme par exemple la frite de Tuli Tuli. Cette frite, prenant la forme du numéro 8, est la favorite du peuple de Bouton car il a de bon goût. L'ingrédient principal de cette frite est le manioc, saisonné par l'oignon et du sel. Tuli Tuli est habituellement servi avec la sauce de chili. Mais elle est également délicieuse, même sans la sauce. Pour faire Tuli Tuli, on râpe d'abord le manioc et après on écrase le râpeur pour collecter de l'eau et on le fait sécher. Puis on prend le manioc séché et on le mélange avec l'oignon et du sel et on le frit jusqu'à ce qu'il est caillé. Et après on prend un petit morceau de la pâte et on fait comme la forme du numéro 8 avant de la frire avec de l'huile. Tuli Tuli possède de bon goût et si vous le mangez avec la sauce, le peuple de Bouton préfère manger de Tuli Tuli pendant la soirée. C'est la raison que les vendeurs de cette frite commencent à la vendre généralement le soir. Mais en fait, ce n'est pas difficile de trouver Tuli Tuli à Bouton. Il est normalement vendu avec d'autres sortes de frites et le prix est vraiment raisonnable, seulement 1000 rupiah par portion. Chers amis, voilà cette édition Pesona Indonesia ou le magazine culturel avec le sujet Tuli Tuli. Merci à tous et à demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique L'Indonésie en couleurs. Chers amis, depuis que l'UNESCO déclaré le batik comme le patrimoine mondial de l'Indonésie en 2009, le marché de batik domestique et international augmente. L'un des aspects importants à considérer dans la production est l'utilisation de colorants. concerne les artisans de bâti utilisés des colorants naturels. Petit à petit, avec le développement de technologies, ont commencé à utiliser des colorants synthétiques et ceux-ci ont remplacé les colorants naturels. Et il est difficile de trouver le colorant naturel aujourd'hui. À cause du déboisement fréquent, le colorant naturel devient rare. Les colorants synthétiques, pas comme ceux de la nature, sont faciles à obtenir au marché avec des diverses couleurs et ils sont plus pratiques à utiliser. Il existe plusieurs colorants synthétiques, comme Indigosol. Le colorant Indigosol est une sorte de colorant qui se mélange bien avec de l'eau. Lorsque le textile se mélange avec les colorants, les couleurs ne se montrent pas encore. Mais après le procès d'oxydation, le mélange avec l'acide, les couleurs se montrent. L'utilisation de l'indigosol a besoin de rayons de soleil car le composant de rayons de soleil joue un rôle pour montrer la couleur. Malheureusement, en Indonésie, où la saison des pluies domine le pays, le processus de coloration avec l'indigosol n'est pas très efficace. La saturation des couleurs de batik dépend de la qualité des rayons. Le manque de l'intensité des rayons causerait la mal qualité sur le textile. C'est la raison qu'un groupe de l'Institut de technologie Bandung a créé une machine spécifique pour la production de batik indonésien. Cet outil produit du rayon artificiel afin de montrer la vraie qualité des couleurs de batik. Grâce à cette machine, la production de batik peut continuer même sans le rayon du soleil. Ce groupe vient du département d'ingénieurs industriels et du département d'ingénieurs physiques de ITB. Le fondateur de ce groupe est un professeur qui s'appelle Eko Mursito Budi, accompagné par l'entrepreneur de batik à Bandung qui s'appelle Komarudin Kudia, Febi Nadira, Nugroho Hari Wibowo, Pedrik Pratama, et Nabela Ajani font partie du groupe de recherche. Et la machine était assemblée par Amron Naibahu et Haris Suwiknyo en tant que la tâche finale universitaire. Après plusieurs recherches, ce groupe a obtenu un résultat que le rayon qui fait la couleur est ultraviolet. Outre par l'ultraviolet, ce groupe a découvert la durée et la distance idéale du rayon pour montrer les couleurs de batik de sorte que l'appareil, l'irradiation suit le système, l'introduction de roulement. Après le démarrage du moteur de bouton est activé, le tissu de batik est automatiquement éclairé uniformément. Ainsi, les artisans de batik ne se sentent plus une perte, même lorsque la saison des pluies arrive. Grâce au moteur photonique de cette équipe de groupe de ITB, la production de batik peut encore avoir lieu. Chers amis, c'était notre programme L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta avec le souci l'appareil photonique pour la production de batik. Merci à tous et à bientôt.
Nous vous
rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, bienvenue dans la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons pop chantées par Ari Lasso. Le chanteur, donc, le vrai nom est Ari Lasso Bernard, est un ancien chanteur du groupe Dewa 19, qui était l'un des groupes populaires en Indonésie. En 1997, après la sortie de l'album Pandawa 5 de Dewa 19, les relations entre Ari et le groupe commençaient à se détériorer, notamment après être impliqué dans une affaire de drogue. Il a été libéré du membre de Dewa 19 et sa position en tant que chanteur principal a été remplacée par Once. Après être sorti de Dewa 19, il a commencé sa carrière en solo. Le premier single intitulé Jika ou Je suppose, chanté avec Melly Goeslaw. Bon, chers amis, on écoutera la première chanson de Ari Lasso intitulée Je suppose. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme Courrier et musique. C'était la première chanson intitulée Jika ou Je suppose, chantée par Ari Lasso. Cette chanson a été sortie en 1999 et bien accueillie par les amateurs de musique dans ce pays. Il a reçu le prix de AMI Award pour la meilleure chanson pop progressive. En 2001, il a sorti son premier album solo intitulé Sendiri Dulu ou Seul d'abord. Le single pilier dans cet album est le Mystère Ilahi ou le Mystère Divin. Bon, chers amis, on va dire bonjour à notre auditeur. D'abord, je vais dire bonjour à Abdelkader Khalil, à Boîte Postale 669, Ouargla, Algérie. Merci pour votre email et merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Passons également le bonjour à Moutirte Mohamed. Il a écrit « Bonjour, je vous écoute depuis le Luxembourg et je voudrais juste vous féliciter pour votre adorable station radio qui nous approche de la belle Indonésie. Chers amis, merci à tous ceux qui nous ont écrit ou envoyé des rapports d'écoute. Et maintenant, nous allons présenter la deuxième chanson intitulée « La Mystère Divine » chantée par Ari Lasso.
Tentang arti hidup ini,
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée « Mystery Ilahi » ou « La mystère divine » chantée par Ari Lasso. Cette chanson était assez bien accueillie par les amateurs de musique dans ce pays. Et jusqu'à présent, Ari Lasso a déjà produit 6 albums. Mettons salut et merci à notre auditeur de l'Algérie, Abdallah Rizki, El Anazer, 34034, c'était Ali Babouche, boîte postale 34000, Algérie. Il a écrit « J'apprécie beaucoup vos émissions variées que j'écoute régulièrement sur OnCourt et Internet. Je serais fort heureux de pouvoir visiter votre beau pays, l'Indonésie. Espérons, je vous félicite et je vous encourage pour vos efforts considérables pour rapprocher les peuples du monde entier à travers la politique constructive de votre pays prospère et à travers les émissions de VOI. Au plaisir de vous rencontrer à Jakarta et les gens d'Indonésie. Au revoir. C'était email de l'auditeur de l'Algérie, Abdallah Rizki. Chers amis, merci à tous ceux qui nous ont écrit et envoyé des rapports d'écoute et email. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce courrier. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Bonne continuation et nous attendons de bonnes nouvelles de vous. Restez toujours en contact avec nous à la semaine prochaine et on va écouter la troisième chanson intitulée « Chasser le soleil » et « Aimez-moi de tout cœur ». Tous les deux sont chantés par Ari Lasso. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Cerita telah aku temukan arti kebahagiaan bersama dirimu. Aku merasa berarti. Bertahan hingga waktu tak berjalan. Mencintaiku walau bintangku tak terang. Cintailahku sepenuh hati sesungguhnya.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure notre programme Courrier et musique. Ainsi se termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie. Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.